Hi, this is Jamie Cullum, and you're listening to Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti. Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Je me souviens très bien qu'à l'âge où j'ai commencé à lire Tintin, je devais avoir 7 ans ou 77, je ne sais plus, j'étais terrorisé à chaque fois que je tombais sur l'étoile mystérieuse par l'image de ce vieillard chenu, le prophète Philippulus, vêtu d'une toge qui arpentait les rues en frappant un gong de poche et en s'exclamant d'un air exalté « Faites pénitence, la fin des temps est venue, repentez-vous » Ajoutant « Je vous annonce que des jours de terreur vont venir, là !» La fin du monde est proche, tout le monde va périr et les survivants mourront de faim ou de froid et ils auront la peste, la rougeole et le choléra. J'avais peur et en même temps j'étais bien conscient que ce n'était qu'une BD, certes pour des enfants de 7 à 77 ans, mais une innocente BD initialement parue en 1942, une année, souvenons-nous, qui a laissé un excellent souvenir dans la mémoire collective et les archives de la SNCF et où l'avenir, sous forme de croix gammée, réussissait à entamer le moral des plus optimistes. Mais il se trouve que 75 ans plus tard, c'est un autre professeur que Tournesol qui descend à son tour dans l'arène publique pour nous faire les mêmes annonces apocalyptiques. Et même s'il a lui aussi un petit côté BD, ambiance Rahan, guerrier des âges farouches, ses prédictions méritent qu'on leur tende nos oreilles tant qu'il nous en reste. Aurélien Barreau est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Aurélien Barreau.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. À mes côtés, chat. Non, attendez, je vais recycler mon bonjour d'hier. C'est aussi ça, agir pour la planète. À mes côtés, celle qui a la même garde-robe que la reine, en moins sobre, je parle de la garde-robe bien sûr, Charline Roux, bonjour Charline.
Bonjour.
Bon alors évidemment ça marche pas parce que c'était une spéciale Britpop, bon, bonjour quand même Charline.
Je me suis pas changée, vous noterez, bonjour Antoine, bonjour Aurélien.
Au menu également de Pop Pop Pop, Manu Payet, mais ce n'est pas le menu Manu Payet, comédien, doubleur ou exhibitionniste, hein, rapport à la reprise de son affiche du film Emmanuel. Non, nous recevons tout à l'heure Manu Payet, le militant qui s'engage contre la précarité alimentaire en France, et il va nous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, Aurélien Barreau, ici il existe une question qui peut faire encore plus mal à la planète qu'un discours de Donald Trump.
So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax, it's a hoax.
Ok, et cette question ici, c'est... Pour vous, Aurélien Barreau, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses aurélianisées, barotteuses, grinophiles ou même astrophysicateuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de Pierre Ninet, un des signataires de votre tribune pour sauver la planète.
Pour moi, c'est ce qui a été considéré comme de la sous-culture à un moment et qui est devenu de la culture, qui a été mis en avant ou rendu plus noble d'une certaine manière. Donc quand je pense à la pop culture, je crois que je pense tout de suite quand même aux canettes de soupe de Warhol, d'Andy Warhol.
Et pour vous, Aurélien Barreau, c'est quoi?
Ouais, je crois que mon papa a raison et me dit toujours que je devrais écouter les émissions avant pour préparer les réponses. Je crois que je vais finir par l'écouter. Bah, écoutez, pour moi, ça serait une sorte d'oxymore dépassé parce que la culture, ça a intrinsèquement une connotation élitiste. Le populaire, ça a souvent une connotation injustement péjorative. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de vous faire une réponse très provoque. Moi, ça m'évoque Jean-Sébastien Bach. Parce que Bach, c'est hyper intello. Si on comprend la structure mathématique de l'œuvre, elle est incroyablement compliquée. Et en même temps, ça sonne bien. Mm-hmm. On n'a absolument pas besoin de connaître la musique pour être transporté et ému aux larmes.
Ça parle à tout le monde.
Ouais, et en même temps, ça parle à tout le monde, mais à tous les niveaux, et il y a une infinité d'accès et de chemins de réappropriation de la même œuvre.
Très bien, alors la pop culture, c'est Jean-Sébastien Bach, ça vous convient, Charline?
Parfaitement.
Nous validons. Nous validons Aurélien et nous continuons donc cette émission. La pop culture, Jean-Sébastien Bach et même l'agriculture bio, on va en parler dans la suite de cette émission, juste après ce morceau Offense de Little Sims.
My respect. You do not scare me, no. know you and not friends. Anyone I want it, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be saying with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my knight, got your queen in check, mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill this, damn, even when I trip. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. May as well get a birthday cake in it, ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a.
You're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend.
Came through swinging at the gate on a mad one, no. Stepping to the kid, trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz, and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jugging, jugging through the broad day. And anywhere would I be now if I went in under your way? I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy, Jorge. Hold on my plug, like I'm back in town and I need an ounce, give me more plays. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'm probably any caprice and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a b-
I said it with my chest and I don't care who I.
Offense, c'est un morceau signé du phénomène Little Sims, la rappeuse adoubée par Jay-Z.
Ou Jay-Z, non. On fait comme on veut, hein. Je crois Jay-Z, que les deux prononciations sont acceptées.
Et Kendrick Lamar, que vos enfants doivent connaître, j'imagine.
Je vais leur demander très rapidement.
Bien sûr. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec celui qui compile 100 000 fois plus de vues que les tutos maquillage d'Enjoy Phoenix, mais avec des thèmes beaucoup plus futiles. Qui est donc ce YouTuber mystère? Réponse avec son pop portrait. Votre pop portrait, Aurélien, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline Rourourourou.
Aujourd'hui, enfin, un invité apte à répondre à toutes les interrogations les plus importantes qui m'agitent, à savoir la radiation gamma dont a été victime Bruce Banner, le transformant Hulk, est-elle plausible? Son science bro Tony Stark est-il crédible? Est-il vrai que dans l'espace, personne ne vous entend crier? Est-ce qu'un trou noir ressemble vraiment à ce qu'on voit dans Interstellar? Et Matt Damon serait-il vraiment capable de rester seul sur Mars? Sans Ben Affleck, j'entends. Et en bonus, je ne sais pas si c'est dans vos compétences, mais je tente. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fucking avion dans Lost? C'est une première aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Notre invité est astrophysicien au CNRS, spécialisé dans la physique des astroparticules, des trous noirs et en cosmologie. Il est également docteur en philosophie. Et c'est pourtant aujourd'hui une préoccupation bien terrienne qui l'amène. Une préoccupation bien plus flippante que Thanos. C'est son claquement de doigts, soit l'état de notre planète qui, sur une échelle de Richter allant de 1 à 10, est à peu près à moins 12. La faute à qui? Devinez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on en parle aujourd'hui avec notre invité.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une bonne question. On va essayer d'y répondre en partie dans cette émission. Mais répondez pas tout de suite, Aurélien Barreau. Moi, la planète que j'essaye de sauver pour l'instant, c'est la planète pop. Et on va passer par votre pop liste. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le journal du voleur de Jean Genet, paru en 1949. Charline, vous allez rire, mais figurez-vous... Non, attendez, figurez-vous qu'on m'a volé mon journal du voleur. Bon, de quoi s'agit-il?
Faites-moi des signes, je comprends rien. Plus qu'un récit autobiographique dans lequel Jean, le narrateur, raconte sa vie de 1932 à 1940, une existence de misère en Espagne entre Vermine et Amant Crasseux, le livre est, je cite, « une cosmogonie sacrée ». Et comme j'ai aucune idée de ce que ça signifie, je vais laisser notre invité parler.
Bien. Aurélien, pourriez-vous d'abord nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Donc, je vais vous lire l'extrait que vous avez choisi. Deux photographies de l'identité judiciaire ont été retrouvées. Sur l'une d'elles, j'ai 16 ou 17 ans. Je porte, sous un veston de l'assistance publique, un chandail déchiré. Mon visage est un ovale très pur. Mon nez est écrasé, aplati par un coup de poing lors d'une bagarre oubliée. Mon regard est blasé, triste et chaleureux, toujours très grave. J'avais une chevelure épaisse et désordonnée. En me voyant à cet âge, mon sentiment s'exprima presque à voix haute. Pauvre petit gars, tu as souffert.
Bien. Alors, d'abord, dans l'ordre, ayez la bonté d'expliquer à Charline ce que c'est qu'une cosmogonie sacrée. Et ensuite, dites-moi pourquoi il vous touche tellement ce livre.
La cosmogonie, c'est le nom par lequel on évoque la naissance donc de l'univers. Théogonie, c'est la naissance des dieux dans l'œuvre d'Hésiode. Et cosmogonie, c'est la naissance du cosmos. Et sacré parce que Genèse, c'est ça qui est génial. Il est inappropriable, il est toujours à la frontière de l'obscène et du sacré, du subversif et du divin. Jean-Paul Sartre a intitulé son grand ouvrage sur lui Saint Genet. Mmh. Et je crois que c'est exactement ça, parce que c'est une sacralité déchue, en quelque sorte. Et je trouve ça magnifique d'assumer ce statut d'ennemi intérieur, non pas du tout pour le plaisir du vice en tant que tel, mais plutôt pour être toujours celui qui a vu de l'amour là où les autres ne voyaient que de la hideur. Mmh. Et pour moi, c'est un peu le frère d'Artaud, de Pasolini, de Villon, de Lautréamont. Voilà, c'est le poète maudit. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'infiniment touchant dans sa manière d'être toujours en décalage et en opposition à l'ordre établi.
Vous avez parfaitement répondu à ma question. Avez-vous répondu à celle de Charlie?
Alors oui, et en plus j'ai tout compris.
Mais généralement, je réponds aux questions que je me pose moi-même. C'est un peu frustrant pour les journalistes.
Aurélien Barraud, pour le film, vous avez choisi Mélancolia, le film de Lars von Trier, sorti en 2011. Charline, si mon souvenir est bon, il s'agit de l'histoire d'une planète sortie de son orbite, arrêtez, ça m'excite, et qui du coup se dirige vers nous. C'est dangereux, non?
Oui, c'est dangereux. Mélancolia est effectivement le nom d'une planète qui se dirige tout droit sur la Terre, et pendant ce temps, pourtant, Justin et Michael se marient.
I'm afraid of that stupid thing.
And it is not going to hit us.
You promise? Life is only on Earth. And not for long.
I don't think you know that at all.
I'm afraid that the planet will hit us anyway.
Aurélien Barraud, on parle de Mélancolia, de Lars von Trier, là. Vous êtes astrophysicien, donc j'en déduis que quand vous sortez de vos travaux, vous allez vous précipiter dans des salles de cinéma, voir des films avec des planètes dans l'espace.
Eh bien, vous avez tort. C'est tout à fait fortuit. Mes accointances poétiques, cinématographiques et musicales n'ont absolument rien à voir avec mon métier. Et d'ailleurs, pour moi, ce film n'est pas du tout sur la fin du monde, ni sur les planètes. Pour moi, c'est un film sur Wagner. Mm-hmm. C'est l'œuvre de Wagner, c'est Tristan et Isolde, qui est complètement omniprésent dans le film. C'est cette espèce d'accord comme ça, qui se diffracte et qui crée une sensation d'instable permanent. Voilà, on traverse la folie, l'amour, le désespoir, l'injustice. C'est beau comme le monde.
C'est le film qui vous vient à l'esprit automatiquement. Quand
ah, dans ces dernières années, ouais, pour ouais. moi, c'est le film le plus puissant parce que justement, il assume une sorte de fragilité permanente qui fait qu'on est dans une situation où on sait que la chute est imminente ouais. et pourtant elle est comme éternellement retardée. Ouais. Je vous avais aussi cité Paris, Texas de Wim Wenders, que j'adore. Et puis en plus, mon amie Claire Denis était réalisatrice assistante à l'époque sur ce film. Donc, il y en a d'autres voilà, qui viennent à mon esprit. Mais dans les 10 dernières années, ah oui, je trouve que Mélancolia, c'est exceptionnel.
Je vous entends beaucoup parler d'instabilité quand même, entre le film et le livre.
Oui, c'est peut-être l'histoire de ma vie et l'histoire de ma planète aussi, ce qui est un peu plus contrariant pour l'ensemble des humains que nous sommes.
Bien, passons à la série. Et là, vous faites un choix d'accro, littéralement, en prenant Breaking Bad, la série créée par Vince Gilligan, diffusée entre 2008 et 2013. Charline, on a beaucoup parlé de Breaking Bad en cassant du mauvais, c'est le titre français. Racontez-nous quelque chose que nous ne sachions déjà.
Jesse Pinkman devait disparaître à partir du 9e épisode, mais l'excellence de la prestation d'Aaron Paul en a décidé autrement. Et pour ce qui est de l'intrigue, Walter White est ce qu'on peut appeler un chat noir. À 50 ans, ce professeur de chimie doit subvenir aux besoins de Skyler, sa femme enceinte, de Walt Jr., son fils handicapé. Et il apprend qu'il atteint un incurable cancer des poumons. Alors à frais supplémentaires, activité d'appoint nécessaire, il se met à fabriquer et vendre de la drogue.
Now, say my name. Heisenberg. God damn right.
Aurélien Barraud, quand on s'intéresse à la physique, on s'intéresse aussi nécessairement à la chimie?
Oui, voilà, vous avez tout compris. Hein. Le prof qui tourne mal, c'est forcément un peu autobiographique. Enfin, j'espère pas trop quand même. Hein. Pour l'instant, je touche pas à la drogue. En tout cas, je l'afficherai pas publiquement. Mais ce que je trouve génial dans cette série, et je pense d'ailleurs que mon choix a pas été très original, c'est qu'on est tout le temps en train de se demander jusqu'où on va le suivre. Parce qu'il est plutôt quand même sympa, ce type-là. Et puis, au fur et à mesure qu'il commet voilà, des larcins, on se dit, oui, alors, bah, c'est pas si grave. Et puis, finit par tuer un gamin, on se dit presque, oh oui, c'est pas si grave. Et on se dit, mais jusqu'où on va le suivre dans l'abomination? Et ça, je trouve ça génial parce qu'on se rend compte finalement que bah voilà, la psyché est très, très flexible et qu'on peut aller très, très loin là où nous n'avions pas du tout prévu d'aller.
bien. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire avec cette planète. Ça, oui. On va y revenir aussi. On va terminer cette pop list, Aurélien, avec votre chanson culte. Et là, bah, ça coince parce qu'il y en a deux, et disons deux chansons très éloignées l'une de l'autre. D'un côté, La mauvaise herbe.
Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, brave gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça.
La mauvaise herbe de Georges Brassens, sorti en 1952, et de l'autre côté, Sans moi.
Je ne suis pas de ce monde, être libre, on ne l'est pas parce qu'on le croit. Faudrait toujours être le premier, faudrait toujours faire le poids. Être libre quand ils nous imposent nos choix. Si le bonheur c'est de consommer, alors ce sera sans moi.
Sans moi de Kerry James. Alors expliquez-moi ce grand écart encore plus impressionnant que celui de Jean-Claude Van Damme entre deux camions.
Écoutez, bon, Brassens, voilà, c'est facile, c'est le génie absolu. Et puis La mauvaise herbe, c'est un peu l'histoire de ma vie quand même. Hein. Je me demande pourquoi ça vous dérange quand même un peu. Je me le repasse quand même tous les jours en boucle, donc je crois que c'était un peu autobiographiquement narcissique de ma part. Et puis Kerry James, bah, c'est mes enfants qui m'ont fait découvrir. Et j'aime bien parce que quand même aujourd'hui, ça fait chier beaucoup de bien-pensants qu'on passe du rap, et puis ce rap-là en particulier qui est quand même assez incisif, et je trouve que c'est pas mal, voilà, de le réhabiliter et de découvrir qu'il y a aussi une poétique qui est en fait très intense, qui est très subtile, bien qu'elle soit aussi très violente, mais la violence c'est aussi une construction sociale, et c'est intéressant de l'interroger, de voir que la violence contre violence, c'est pas forcément quelque chose de répréhensible.
Bien, j'y suis avec ma pop-liste. Je résume Journal du voleur, Mélancolia, Breaking Bad, Georges Brassens, Kerry James, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Who the hell are you?
Je ne suis pas de ce monde.
I'm afraid of that stupid love.
Être libre.
You know.
On ne l'est pas parce qu'on le croit.
Life is only on earth.
La mort faucha les autres. Braves gens, braves gens.
I'm afraid that the planet will hit us anyway.
En me voyant à cet âge, mon sentiment s'exprima presque à voix haute.
Faudrait toujours être le premier. Faudrait toujours en faire le poids.
God damn right.
Pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu?
Bonne question. Aurélien Barraud, c'est vous ce compost de pop culture?
Ah ben j'aimerais. Je ne sais pas si c'est moi, mais alors j'adorerais. C'est la version idéalisée et sublimée de moi, en tout cas.
Ah bon, on la garde alors?
Ah oui, on la garde, j'achète.
Très bien. Alors, attention, Aurélien Barraud. Dans la suite de Pop Pop Pop, on s'intéresse au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, rien que ça. Mais avant d'écouter le tout nouveau morceau de Nekfeu, Tricheur.
Hey. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à papa. Entre bonhomme, on se devine. J'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à papa. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à papa. Bientôt j'arrête tout ça, maman.
Ouais. T'as un compte certifié mais t'as pas de followers, tricheur. Les maisons disent sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur. Donne-moi ton cœur que j'écrase mon mégot. Ça toi je parle donc je fais pas tant de Niro. J'ai pris des grammes et j'ai perdu des kilos. T'assumes pas ta calvitie comme Nio. Ça fait trop de weed pour une seule buzz. Ça fait trop de bitch pour une seule queue. Ça fait trop de mort pour une seule vie. Ça fait trop d'or pour une seule fille. J'suis dans le bendo. Enfermé sur moi, je te salue pas, je suis pas courtois. Loin des malfrats et des bourgeois. Entre vie et mort sur la coudoua. J'entends sale nègre, ah ouais, je me trompe sec, glock, boum boum. Bang bang, tous les jours est un main event. Grand noir et dur comme un bois d'ébène. Trop de chagrin à l'intérieur. J'ai connu la guerre et la frayeur. Rupture de l'hymen, elle me fait de la peine. Je l'ai même pas baisé que je l'ai déjà ken.
Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain
demain je change de vie. Mes copines me taquinent, voilà l'acteur. Ma richesse intérieure dans mon laptop. Maman s'inquiète pour mes frères, elle nous a vu grandir ensemble et certains finir l'octop. Que des cobayes sur une piste étroite, j'ai grandi pareil. La première fois qu'ils te lisent tes droits, c'est quand ils t'arrêtent.
C'est quand ils t'arrêtent, ouais.
Notre succès, c'est pour tous les fils de pute de vigile qui nous ont mal regardés. Et quand j'étais petit, j'avoue, j'étais parfois jaloux des enfants que maman gardait. Ceux qui sont venus soulever les meubles, c'était pas les déménageurs. Séparation des ménages, avant que l'enfant devienne un jeune. Moussa passait 4 ans au placard, pour lui c'était sa dette majeure. Et tes rappeurs, ils parlent de quoi? C'est des bobs, c'est des maîtres nageurs.
Pour ces bonhommes, la baby girl.
Tu crois qu'on est là depuis hier? Tu parles à fond, tu bibi air.
Toujours comme baby,
Mama j'étais sous gasoline. Mais je veux être un gars solide. Je veux pas voir mes gars sous lit. Non, 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 ça m'inquiète. On s'est pas quitté, on enquête. Compte certifié, mais personne te connaît. T'as pas le droit de tweeter en anglais. Le succès c'est un moyen d'avoir des plavés. Mes gavards qui pourraient te vendre une loque. Sur les traîtres, une main dans les fesses. Les keufs les font parler comme des ventriloques. J'ai plus l'ami dans la Scarface. La sœur de mon frère c'est ma sœur. Chez nous y'a pas de sale money comme dans Scarface.
J'ai un break, mec, j'ai trop hype, mec. Me faut une schneck sèche, tu texte bien fraîche. Que je baisse express, un gros cul de presse. J'ai pas que stress, c'est l'autre tristesse. Il me faut un wellness que je décompresse. J'suis dans trop de fesses, faut que je me confesse. J'suis dans le business, besoin de vitesse. J'suis dans l'ivresse, pardon God bless me.
Bientôt j'arrête tout ça, mama. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhommes on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, mama. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, mama. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhommes on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, mama. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie.
Demain, donc, Tricheur, c'est le tout nouveau Nekfeu dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau en featuring avec Damso. Nous recevons aujourd'hui Aurélien Barreau, astrophysicien, auteur du plus grand défi de l'histoire de l'humanité chez Michel Lafon, sous-titré « Face à la catastrophe écologique et sociale ». C'est un essai. Aurélien, vous êtes astrophysicien, comme je le disais à l'instant, et vos activités théoriques se sont portées notamment sur les couplages entre les champs quantiques et les trous noirs. Vous avez montré que l'évaporation de Hawking, des trous noirs, gardait l'empreinte de l'existence éventuelle de dimensions supplémentaires ou d'une modification de la théorie gravitationnelle. Mais ce n'est pas de cela.
Dommage.
Dans lequel nous parlerons aujourd'hui, et je vois ma petite Charline se détendre d'un seul coup.
Ah non, c'est pas ça, c'est un AVC, ça s'appelle.
C'est un AVC, pardon. Non, vous êtes venu tirer la sonnette d'alarme, comme on dit, en publiant cet essai, le plus grand défi de l'humanité. On ne saurait mieux dire, il y a, pour résumer, de la survie de l'humanité, il dépend de la survie de l'humanité, à laquelle, je rappelle, à notre réalisateur, nous appartenons, hein, n'est-ce pas Ghislain? Bien.
Vous aimez à le répéter, le monde, c'est la diversité. Alors à partir du moment où les espèces se raréfient, le monde en question devient quoi?
Oui, c'est pour ça que quand je parle de fin du monde, je suis systématiquement rappelé à l'ordre. Mais non, monsieur Barreau, c'est pas la fin du monde, juste la fin de l'humanité. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas juste la fin de l'humanité, on est en train d'emmener... Enfin, la fin possible hein, de l'humanité, elle est pas du tout actée à ce stade, naturellement. Mais nous emmenons dans notre sillage des millions d'espèces, et finalement, qu'est-ce qu'on appelle le monde? Si le monde, c'est une planète tellurique qui tourne autour du Soleil et qui est dévastée, il n'a aucun intérêt. C'est pas ça, le monde. Le monde, c'est la diversité protéiforme foisonnante du vivant, et en ce sens-là, il est scientifiquement incontestable qu'il y a un risque de fin du monde.
Comment un homme comme vous qui vit la tête dans les étoiles a-t-il mesuré l'état de cette catastrophe possible qui l'entourait ici-bas? Quel a été le premier déclic pour vous?
Pour être tout à fait honnête, et c'est pas du tout parce que je suis précurseur, c'est sans doute par chance et contingence, mais moi ça fait 30 ans que ça me paraît tout à fait évident et que cette information est accessible à quiconque s'intéresse à la question. Ce qui a changé depuis quelques années, c'est qu'enfin ce message, qui est pourtant scientifiquement et éthiquement tout à fait évident, commence enfin à être audible. Mais franchement, c'est pas très compliqué de se rendre compte que le vivant est en train de s'effondrer autour de nous et qu'on est en train de transformer notre planète en un vaste parking de supermarché.
Et vous dites il y a 30 ans, donc il y a 30 ans, vous vous souvenez de ce qui vous a d'un seul coup alerté?
Mais comment ne pas l'être? La moindre photographie aérienne nous montre que nous avons tellement détruit les espaces vierges que nous avons véritablement transformé cette nature exubérante qui s'offrait à nous en une sorte de grand champ dévasté. Ouais. Et ça, je crois que c'est pas très très difficile parce de se rendre compte.
Moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, c'était le cri d'alarme lancé par des René Dumont, par exemple.
Oui, René Dumont était un grand intellectuel qui était décrié en son temps.
La première phrase du livre est, je cite, « Nous faisons face à une situation sans précédent ». Qui est ce « nous » ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Les Français, les terriens, les êtres humains, les...
Voilà, ça c'est une question cardinale. Moi, j'avoue que je ne suis pas très patriote au sens usuel du terme, donc je ne me sens pas un très grand sentiment d'appartenance nationale, surtout ne le répétez pas en public. Hein.
Non.
Moi, je me sens un grand membre voilà, de cette immense tribu qui est celle des vivants, et j'ai beaucoup d'acquaintances avec d'autres mammifères, avec des poissons, avec des insectes. Finalement, il y a là du magique, du merveilleux, du miraculeux. C'est beaucoup plus que de la biodiversité. C'est simplement tout ce qui donne sens à ce que des millions, voire des milliards d'années d'évolution subtile sont parvenus à créer. Et ce « nous-là », qui est pour moi celui qui a du sens, est effectivement en danger. Si je restreins le « nous » aux astrophysiciens de mon laboratoire, ça va plutôt bien. De ce point de vue-là, on n'est pas en danger. Mais ça me semble quand même être une exception un peu questionnable.
Ce texte, vous l'avez rédigé après la tribune que vous avez publiée dans le journal Le Monde, le 3 septembre, un appel signé par 200 personnalités, considérant que si l'effondrement est déjà en cours ? Non, il n'est pas en cours.
Il est en cours.
Voilà. Voilà. Il n'est pour autant pas trop tard pour éviter le pire.
Allez-vous y arriver, Antoine ?
J'ai dit ça, moi, parce que maintenant, cette phrase m'agace un peu. Donc, c'est là, je vais pouvoir la décrier en toute conscience et en toute. Et sans inquiétude si j'en suis l'auteur. Parce que cette idée d'éviter qu'il ne soit trop tard me met très mal à l'aise. Je ne comprends pas bien ce qu'elle veut dire, en fait. Trop tard pour quoi ? Trop tard pour que rien de grave ne se soit passé. Ah, ça, c'est trop tard depuis le néolithique. Hein. On a des scènes de torture depuis toute l'histoire de l'humanité. Si on veut dire trop tard pour que la vie subsiste, ah là, c'est sûr, il n'est pas du tout trop tard. La vie subsistera très probablement de toute façon. Donc, la question, c'est pas de savoir s'il est trop tard. La question est de savoir l'amplitude du désastre dont on va s'accommoder. Et de ce point de vue-là, évidemment, il est urgent d'agir. Mais c'est une question de bon sens et pas tellement de points de rupture. J'aime pas tellement ce discours catastrophiste qui nous dit « il nous reste 2 ans, il nous reste 10 ans ». Mais 10 ans pourquoi ? Si on se comporte de façon irrévérencieuse pendant 40 ans, la vie continuera sur Terre. Ouais. Simplement, bien sûr, le taux de catastrophe, de souffrance, de misère et de mort que nous aurons engendré sera bien sûr très supérieur.
Dans le livre, on trouve un état des lieux factuel et extrêmement circonstancié. Un seul chiffre, hein, un seul, devrait suffire à nous alarmer. Au hasard, la disparition de 60% de la population animale sauvage en 44 ans. Et pourtant, ceux qui tirent la sonnette doivent encore faire face à une forme de scepticisme que personnellement je trouve un peu flippant. Comment est-ce que vous l'expliquez et surtout, comment est-ce qu'on le combat ? C'est-à-dire en répétant les chiffres à l'envi ?
C'est très curieux. Il y a une forme de scepticisme qui est, je crois, en voie d'extinction. Vous passiez notre ami Donald Trump tout à l'heure. Bon, il commence à se faire rare. Hein. En France, quand même, les sceptiques maintenant sont des marginaux égarés. En revanche, vous voyez, hier, j'ai parlé de ce phénomène autre part, et j'ai vu que ça s'est déchaîné sur les réseaux sociaux sur une question absolument fondamentale qui est la marque des petites babioles que je porte au poignet. Voilà ce qui a déchaîné les passions. Pas du tout l'extinction du vivant. On est étonnamment cool par rapport au fait que la vie disparaisse sur Terre, et ce qui intéresse les gens, c'est la longueur de mes cheveux. Bon, moi, je trouve ça très triste. Je m'en fous qu'on lance des vannes sur moi, ça n'a absolument aucune importance, ça me fait même plutôt rire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours cette propension à décadrer le débat pour finalement ne pas faire face à ce qui est absolument fondamental et qui est une négation de ce que nous sommes en tant que tel. Vous savez, les philosophes parlaient d'ontologie de la vie, c'est-à-dire la vie en tant que telle, le fondement de la vie, l'essence de la vie, c'est exactement ça qu'on est en train de décrire, enfin, et de détruire plus exactement en ce moment. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile de regarder ailleurs, hein. C'est un réflexe qui est aussi le mien, d'ailleurs, parce que je ne suis pas exemplaire, je n'ai de cesse de le répéter, et je me prends moi-même comme sujet d'étude, en fait, en me disant, je vois toutes mes imperfections, toutes mes incohérences, et donc comment faire pour essayer d'en venir à bout. Et le fait est que la réponse est compliquée, mais on devrait collectivement y réfléchir plutôt que de se tirer dans les pieds. C'est un peu indécent aujourd'hui.
Moi, je parlerais quand même volontiers de la longueur de vos cheveux, ne serait-ce que pour savoir jusqu'où vous comptez les laisser pousser. Mais j'en resterai au sujet qui nous occupe aujourd'hui. À quoi quand même tient cette surdité ? À la difficulté que nous avons d'imaginer qu'il faut changer radicalement de modèle ?
Là, moi, j'ai toujours eu l'impression que l'une des plus grandes violences de nos sociétés, c'est de considérer comme immuable et inné ce qui est en réalité construit et acquis. Pour le dire plus simplement, on a toujours l'impression que le système dans lequel on vit n'est pas un système que nous avons choisi, mais est une sorte d'ordre naturel ou divin. Et ça, c'est faux, en fait. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pas forcément faire table rase du passé, c'est certainement pas faire une révolution suivie de la terreur et de la dictature. Personne ne veut ça. C'est simplement oser interroger l'ordre établi, parce que le fait est que cet ordre nous mène aujourd'hui à la mort. Donc soit on l'interroge, soit on crève. Je préférerais qu'on l'interroge, et peut-être même que ça ne sera pas triste. Parce que tout reprendre, tout revoir, tout réinventer, ça peut être aussi jubilatoire, peut-être même orgasmique. Jouissons de la redéfinition de ce que nous sommes. C'est une chance extraordinaire que la nature nous impose.
Alors on parle beaucoup, et à raison, n'en déplaise au fameux Donald Trump, du réchauffement climatique, et pourtant vous expliquez ce qui fait peser la plus grosse menace, ou en tout cas peut-être la plus imminente sur notre survie, c'est l'hypercolonisation. Alors à ce problème, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution ?
Oui, alors effectivement, on envahit tout l'espace et on est de plus en plus nombreux. Donc, comment faire face à cette situation ? Là encore, j'ai pas de remède miracle, j'ai juste une constatation un peu naïve que j'appellerais le partage. Voilà, on sait qu'il y a énormément de logements qui ne sont pas habités, on sait que certains ont des très très vastes propriétés alors que d'autres dorment dans la rue. Je crois quand même qu'on a une marge de progression absolument colossale, sans en venir à une dictature communiste stalinienne. C'est pas la question, c'est de faire preuve d'un peu de décence.
La fin de l'humanité, et là je m'adresse au docteur en philosophie que vous êtes, ne correspond-elle pas à la fin d'une forme d'humanité, d'une société où l'homme s'est replié sur ses intérêts particuliers au lieu de se soucier du bien commun ?
Oui, ça c'est vrai, et c'est la question qui me pose le plus de problèmes. Parce que finalement, si ce vers quoi on s'achemine, c'est simplement la fin du monde tel qu'il est en ce moment, c'est peut-être pas très grave, c'est peut-être même souhaitable. Mais le problème de ce cynisme, en quelque sorte, c'est d'oublier que derrière les espèces, il y a des individus. Moi, la fin de l'humanité, ça m'empêche pas de dormir. Mais la mort de mes enfants, ça m'empêche de dormir. Et c'est la même chose, en fait. Si l'humanité disparaît, si les millions d'espèces menacées disparaissent, ce sont pas simplement des abstractions conceptuelles, c'est-à-dire des espèces, et ça c'est pas très grave, hein, perdre des concepts, on s'en remet, c'est que derrière la perte des espèces, il y aura des milliards d'individus qui vont agoniser dans des souffrances terribles. Et ça, quand même, c'est un peu sale et je ne suis pas prêt à l'accepter de gaieté de cœur.
Comment est-ce que vous vous y retrouvez entre ceux qui vous critiquent parce que vous ne contestez pas suffisamment le capitalisme, ceux qui vous trouvent inaudible parce que vous contestez trop le capitalisme ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes voué, vous et vos idées, à passer par le tamis de l'idéologie et de la politique ?
Ben oui, mais je m'en fous. Vous voyez, vous avez compris pourquoi j'aime Brassens et Genet, Pasolini et Artaud. C'est pas grave, ça. Moi, j'ai rien à vendre. Enfin, là, un petit livre, mais c'est vraiment pas pour ça que je suis là et c'est vraiment pas ça le nerf de la guerre. Je me présente pas aux élections, je ne cherche pas à être élu et ça m'indiffère totalement que ma personne soit incompris. Ce qui compte ici, c'est le message, c'est d'essayer d'infléchir un tout petit peu un comportement qui est aujourd'hui abscon et de tenter de donner une chance à la vie sur Terre. Et si je suis incompris pour ça, ça n'a aucune importance.
Mais vous dites quand même, Aurélien Barraud, que le radical changement de cap que vous préconisez ne peut pas être imposé aux plus pauvres, qui n'ont déjà aucune marge de manœuvre, mais aux plus riches, à ceux qui ont les moyens de financer la transition. Pourquoi ces plus riches deviendraient-ils subitement humanistes et philanthropes ?
Ah ben, s'ils ne sont pas d'accord, va peut-être falloir leur forcer un peu la main. Soyons honnêtes, moi je ne crois pas que le PDG d'Amazon, qui manifestement a quelques soucis avec l'imposition, soit un philanthrope. Donc il y a quand même un moment où il faut qu'on se mette collectivement d'accord sur les règles du jeu. Les entreprises sont protégées par le droit, je ne vois pas pourquoi les plus démunis ne sont pas suffisamment protégés par le droit, pourquoi la planète n'est pas protégée par le droit, et je crois qu'un peu de redistribution, ça peut effectivement se faire de façon coercitive. C'est pas très grave, hein. C'est pour sauver des gens. En ce moment, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Moi, je crois que si les 10 PDG du monde les plus riches perdent un peu de leur liberté et qu'on sauve les enfants qui crèvent, il y a absolument rien de choquant dans cette affaire.
Et quelles mesures concrètes n'impactant pas le porte-monnaie peuvent être appliquées par les humains de bonne volonté ?
Oui, ouais, on peut en donner 50. Il y a un registre alimentaire, par exemple, où là, passer au végétarisme, etc., ça a des conséquences énormes, moins se déplacer, etc. Tout ça est très bien. Mais moi, je voudrais citer de façon un peu provocatrice une autre mesure concrète, c'est de ne pas cesser de réfléchir. C'est-à-dire de ne jamais considérer que ce qui est ne pourrait pas être autre. En fait, notre monde est totalement contingent. Les valeurs qui nous animent sont des valeurs que nous avons construites. Certaines sont évidemment et éminemment défendables. Moi, je suis très content qu'on ne torture pas les enfants, c'est certainement une bonne valeur, mais d'autres valeurs sont catastrophiques aujourd'hui pour notre avenir. Et je pense qu'à l'échelle individuelle, le plus important, c'est de se réapproprier le réel, de se dire, mais après tout, les choses pourraient être autres, et elles ne sont comme ça que parce que nous avons décidé qu'elles sont comme ça. Et là, à l'échelle de la famille, de l'entreprise, etc., il y a évidemment des capacités de changement qui ne dépendent pas des lobbies américains. Donc on peut aussi faire des choses.
Aurélien Barraud, c'est un livre à la fois catastrophiste et qui donne envie de bouger, de réagir immédiatement. On le recommande évidemment à tous nos auditeurs. Ça s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » chez Michel Lafon face à la catastrophe écologique et sociale. Aurélien, ne bougez pas. Est-ce que vous savez faire plein de choses dans la découverte ? Est-ce que vous savez faire ça ?
Ben, on va essayer.
Oh non.
Ah, c'était nul. Sait que je ne sais pas.
Je suis un peu déçu. Non, mais en fait, il faut y aller de l'autre côté.
Ah non, pardon, je connais bien les symétries, et je peux vous l'assurer c'est que c'est pas un problème de brisure spontanée de symétrie.
Ok, bon, c'est pas une brisure spontanée
une attitude fondamentale.
De symétrie. Très bien, c'est juste pour lancer les pop news de toute façon.
Et un single surprise pour un de nos chouchous. Oui, bon, ok, un de mes chouchous, le britannique Myles Caine, avec qui nous avions parlé ici même de Coup de Grâce, son dernier album sorti l'année dernière. Et le nouveau titre inédit de Myles Caine s'appelle Can You See Me Now? Et Myles Caine refait un petit passage par la France le 7 juillet à Saint-Nolff pour le festival Fête du Bruit.
Keira Knightley joue les lanceuses d'alerte dans Official Secrets, c'est un film de Gavin Hood dans lequel elle est peu de temps avant l'invasion américaine en Irak. Catherine Gunn, officier du renseignement britannique qui révèle une opération illégale d'espionnage de la NSA contre le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bande annonce.
You're a spy. You work for the British government.
No. I work for the British people. I do not collect information so that the government can lie to the British people.
Intelligence may be being manipulated to take this country to war.
You had nothing to gain and everything to lose.
This could result in a prisoner sentence.
Do you want to risk it all?
Official Secrets avec Keira Knightley, mais aussi Ralph Fiennes, Matt Smith et Matthew Good devraient sortir à la fin de l'été.
Alors Antoine, je sais que le fan de Link que vous êtes trépigne déjà hein, oui. Cette idée. Ça y est, c'est officiellement annoncé, le merveilleux jeu de Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild aura bien une suite. Oui, elle est en cours de développement, mais dispose déjà d'une petite bande-annonce dont vous entendez quelques notes. Et précision apportée par le producteur du jeu, Eiji Aonuma, l'une des raisons pour lesquelles nous désirions créer une suite, c'était que je voulais visiter Hyrule à nouveau et réutiliser ce monde tout en incorporant de nouvelles mécaniques et une histoire inédite. Le jeu sortira en décembre 2020 et moi je croise les doigts pour que Zelda devienne un personnage jouable. Et vous, Antoine ?
Oui, moi aussi.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Miles Kay ?
Non. Manu Payet, quand je l'ai croisé la dernière fois à la fin d'une soirée très arrosée. Cette émission spéciale écologie, d'une certaine manière, continue avec la suite de Pop-Pop-Pop. Bah tiens, justement, avec Manu Payet, juste après Heart of Gold, c'est extrait du live inédit de Neil Young and the Stray Getters, c'était en 73.
I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. I've been to Hollywood, I went to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line, it keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Thank you.
searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Heart of Gold dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau de Neil Young, extrait inédit du concert enregistré en Alabama en 73, à retrouver sur l'album Tuscaloosa qui vient de sortir. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Aurélien Barrault et vient de nous rejoindre Manu Payet. Bonjour Manu Payet.
Bonjour Antoine, bonjour Charline, bonjour Aurélien.
Bonjour, la dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, vous étiez nu en hommage à une autre Emmanuelle, hein, celle du film. Aujourd'hui vous êtes habillé. Oui. Vous n'avez pas l'impression de cautionner l'industrie textile qui a un si lourd bilan carbone quand même?
Non, parce que j'essaye de, et je salue d'ailleurs les nouveaux copains que j'ai de chez Opal. C'est les gars qui m'aident à m'habiller avec des vêtements uniquement faits à partir de matières recyclées. Petite marque française lancée par des Français jeunes et super motivés, qui en plus font des trucs plutôt jolis.
Mais alors attendez, c'est donc le militant que nous recevrons, si j'entends bien?
Alors c'est pas le militant, c'est celui qui a pris conscience récemment qu'il ne l'était pas assez. Mmh. Voilà, et donc qui se réveille un petit peu, et puis donc du coup qui essaie de le raconter autour de lui, de manière un petit peu... Et en fait j'ai découvert, alors que je faisais la promotion de ce documentaire auquel j'ai prêté ma voix, qui s'appelle L'Illusion Verte, qui est sorti en février dans les salles, j'ai découvert plein de gens qui étaient concernés au quotidien, et dont c'était presque le métier de nous aider à pas disparaître demain matin.
Je vous présente Aurélien.
Qui
fait tout son possible,
j'entends ça.
J'imagine, Manu, qu'au titre d'artiste, vous avez dû être maintes et maintes fois sollicité pour prendre fait et cause pour certaines associations. J'imagine, pourquoi VRAC?
Ben VRAC parce que ça me parle, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de... Il faut que ça te parle, s'il ne s'agit pas de devenir un matin, de te dire « Hey, ça y est, je me lance !» et puis d'être énervé contre presque tu saurais pas quoi.
Vous pouvez me le refaire, ça.
Sans aucun... Ouais, ça y est, je me lance. C'était ça que vous vouliez.
C'est un peu menaçant.
Il s'agit d'être en paix avec son combat, parce que il s'agit pas d'être énervé comme ça dans le vide contre des moulins. Il s'agit de savoir un petit peu ce qui nous énerve, parce qu'en fait on se partage un petit peu la tâche là ici déjà autour de cette table, et puis ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, il se trouve que j'aime beaucoup bien manger. J'aime bien le bien manger, le bon manger. J'aime beaucoup être français pour ça, beaucoup, et que j'ai rencontré Brice Tavernier et tous les gens de l'association VRAC, donc qui permettent aux gens qui n'ont pas les moyens de se les offrir, et bien de consommer des produits bio et locaux. Donc il ne s'agit pas seulement d'environnement, mais aussi une question de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a 8 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté qui ne choisissent pas ce qu'ils mangent.
Aurélien, cette tribune dans le journal Le Monde, parue début septembre, elle a été co-signée par 200 personnalités, notamment Juliette Binoche. C'est important pour vous que les personnalités s'investissent dans ce combat?
Soyons très clairs, elle ne serait jamais parue en Une du Monde si les personnalités n'avaient pas été là. Donc ce sont les cautions qui permettent de rendre le message audible. Et quand le message est bon, tous les moyens sont bons.
Nous sommes des chambres d'écho, Manu.
Ça résonne bien.
Alors, consommer responsable, c'est bon pour la planète, vous l'avez dit, c'est bon pour l'individu. Si on veut aider VRAC en tant que citoyen, on fait quoi?
On fait un don. On fait un don, tout simplement. Vous allez voir que j'ai essayé de faire un don, et puis si vous voulez, j'assume. J'en doute pas. J'ai voulu, mais je continue. Là, je les aide aussi en parlant. Il s'agit pas seulement de les aider. C'est pas les aider. C'est un peu moche de dire ça, les aider, parce que ça veut dire que tu restes en retrait, toi. Non, s'impliquer pour nous, parce qu'on sait à peu près parler, c'est faire ça. C'est déjà en discuter et présenter l'association à des gens qui n'ont pas le temps de s'y intéresser aujourd'hui. Parce que c'est pas que seulement des gens qui n'en ont pas envie, hein. Il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps. Les gens qui choisissent pas ce qu'ils mangent, ils n'ont pas le temps. C'est pas qu'ils sont uniquement financière, c'est une question d'avoir les moyens. Il faut avoir le temps de traîner devant un rayon, de dire tiens, je vais plutôt prendre ça que ça, il paraît que ça c'est mieux, il n'y a pas d'huile de palme là-dedans. Tout ça, c'est une question de culture, c'est une question de temps aussi. C'est pas que les moyens financiers. Mm-hmm. Moi, j'ai eu le temps, au moment où j'ai rencontré VRAC et l'association, de m'y intéresser un peu plus et donc d'aller voir, d'aller rencontrer Boris Tavernier, d'aller au cœur à Lyon, des Minguettes, pour voir comment ça s'articulait cette affaire et de rencontrer les producteurs. Parce qu'il fait ça sans léser les producteurs. Mmh. Parce qu'il faut pas oublier les producteurs aussi. Donc j'ai rencontré le mec qui fait le fromage de chèvre et qui l'apporte et qui le vend au prix sans qu'il soit lésé et qu'il puisse être abordable par les gens qui normalement pourraient pas se l'offrir dans un commerce bio de proximité classique. J'ai rencontré ces gens-là et donc j'ai été au contact. Voilà, donc je suis encore plus aujourd'hui nourri de ça et animé par un truc que je trouve, en plus d'être important, que je trouve chouette. Mmh. Parce qu'il s'agit pas non plus uniquement, j'ai oublié tout à l'heure, santé publique et environnement, il s'agit aussi, putain, mais du partage, du moment,
d'égalité,
autour d'une table et tout, c'est la vie, ça.
On parle exactement de la même chose, Aurélien Barreau.
Exactement,
c'est
la même
ça. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une convergence ici, elle n'est pas du tout artificielle en fait. On n'est pas dans un ascétisme triste en se disant pour sauver le monde, on va devoir effectivement bouffer des soupes toute la vie et vivre comme des rachitiques. C'est pas ça du tout en fait. En fait, c'est beau ce qui pourrait se passer. Et c'est ça qu'il faut expliquer, il faut le dire et il faut le faire.
C'est des gens qui prônent le beau plus que des gens qui sont en colère que vous écoutez. Ça qui est effectivement.
Vous avez parlé de Lyon, je précise que l'association est aussi présente à Paris, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse.
Ça commence à s'étendre, effectivement. Ouais. Et j'aimerais saluer et remercier mes copains de chez Combini, parce que sans eux, je serais vraiment resté.
Alors, justement,
vous voulez vraiment qu'on en parle?
Okay. Bah oui, l'association VRAC fournit donc des produits bio à bas prix dans les quartiers prioritaires. Et quand je dis que vous vous engagez, le mot est un peu fort, hein, car vous avez voulu gagner des millions au profit de l'association dans le jeu qui porte le même nom. Et vous êtes reparti avec.
Alors?
Avec 1000 euros, c'est le premier truc.
Et alors du coup, Manu, si je vous demande de quelle marque Grace Jones était l'égérie en 85, vous me répondez.
Aujourd'hui, je peux plus me tromper, hein, je n'oublierai jamais celle-là. C'est Citroën.
C'est là-dessus que vous avez chuté.
Mais oui, ils m'ont montré la photo, ils m'ont dit c'était quoi la marque de voiture, c'est une marque française. J'ai dit je vois pas pourquoi Citroën. En fait, tu sais même pas ce que tu te dis à ce moment-là parce que je n'avais aucune idée du truc. Et puis donc on est reparti au premier palier, donc 1000 euros, donc moche. J'étais tellement en colère. En plus, ce qui est marrant aussi, c'est que quand t'es animé comme ça, comme on l'est là, tu crois que tout le monde l'est autour de toi. Mmh. Et après, tu reçois Tropicana, finalement, repasse au plastique. Tu dis, mais merde, il y a deux secondes, j'étais avec le producteur fromage de chef bio. Pourquoi Tropicana? Tu vois, donc, t'es animé, tu crois que tout le monde va être avec toi. Et tu crois même que, donc, du coup, ce qui ne peut pas arriver, attention, la prod qui veut gagner des millions va te faire un chèque en disant, c'est même pas la peine de jouer, on adore ton combat. Tiens, voilà, ça c'est
non,
pour
non,
la
non,
sauce.
Ouais.
Non. Et du coup, je me suis dit, attends, je peux pas me laisser faire, je vais aller. Donc j'ai appelé, heureusement qu'ils ont décroché Combini, je me suis dit, c'est eux qui vont m'aider. Et c'est grâce à eux, via eux, que j'ai pu présenter sur les réseaux sociaux, sur Combini, sur les miens, etc., VRAC au public.
Parfait. Voilà, l'équilibre est rétabli. Et puis moi, Manu, je vous connais, je sais bien que vous connaissiez la réponse. Vous avez dû être paralysé, quelque chose s'est passé. Bien. Aurélien Barreau.
Moi, je ne connaissais pas la réponse non plus.
Merci. Alors, Manu Payet, on approche de la fin de l'émission. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle. Et comme vous connaissez la radio, Manu, je vous emmène avec moi, d'accord?
Volontiers.
Allez, venez.
Vraiment, ça me trappe.
Allez. Attention à la tête, hein.
C'est un peu flippant, soirée dans Parasite, vous l'avez vu?
Oui, j'ai eu peur. Alors, attention de ne pas glisser parce que c'est un peu humide, là.
Oui.
Voilà, c'est ici que je range mes 800 000 vinyles. C'est impressionnant, n'est-ce pas?
Oui, et puis ça sent bon. Je pensais que ça sentirait plus humidité que ça.
C'est un petit peu humide, mais oui, c'est vrai qu'il y a un petit parfum, vous avez raison. Alors, j'ai lu un article dans Le Monde diplomatique dans lequel vous déclariez avoir fait plus de 6-9, je parle des matinales radio, hein, que de 69.
Oui, ça c'est vrai. Alors ça, malheureusement, oui, ça c'est vrai.
Vous pouvez me montrer comment on s'y prend pour le 6-9?
D'accord, ok, parce que j'avais peur de l'autre.
Non.
Pour le 6-9, alors...
Par exemple,
qu'est-ce que vous choisissez?
Si on prend un vinyle, comme celui-ci, c'est quoi? C'est Gorillaz et le morceau Strobalite. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Il faut le lancer tout de suite parce que l'intro, je crois, est très longue. Lancez-le tout de suite.
C'est parti.
Voilà. Et puis maintenant, donc, tu fais un petit peu genre tout va bien, même si tu es conscient de VRAC et de tout ça. Tu parles sur l'intro. l'intro pour essayer de pas te la manger, c'est-à-dire parler sur l'intro et s'arrêter au moment où le chanteur va chanter.
Là, c'est pas
se la manger peut foutre en l'air la journée d'un animateur radio. La journée, voire le week-end. Donc on va faire attention à essayer de pas trop se la manger. Moi, je ne la connais pas par cœur, cette intro, malheureusement. Et en plus, je crois que le mec démarre à contre-temps. Cela dit, on essaye. C'est Gorillaz qu'on écoute maintenant avec le morceau. Comment il s'appelle-t-il ?
Ça s'appelle Strobe Light.
Sur Inter.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Magic lantern strings. Are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it ends? Yeah, your life will turn just like a stroke, 'cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? Is this how it goes? When your private life is dreaming, then you will find a life you'll need. When your private life is dreaming,
Gorillaz dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau extrait de l'album Humans. Manu Payet, Aurélien Barraud, je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime bien demander à mes invités quel objet, quel souvenir ils sont prêts à laisser dans ma cave. Donc je vous pose à votre tour la question, Aurélien.
Oui, donc comme d'habitude, j'aurais dû écouter l'émission avant. Ben moi, j'ai envie de vous laisser, je sais pas, un poil de fourmi ou un cil de libellule, voilà. Un truc que personne ne verra.
Un poil de fourmi.
Ouais, un poil de fourmi parce que j'ai cette conviction qu'il y a de l'immense dans l'infime et que c'est ça, en fait, qu'il faut réapprendre.
Je risque de le perdre, le poil de votre fourmi.
Ben non, vous le perdrez pas, en fait. Vous ne saurez même pas qu'il est là, mais il sera là.
Et c'est mais ça il sera là, d'accord. Un poil de fourmi d'Aurélien Barraud et vous, Manu Payet, un poil aussi.
Ben là, je suis emmerdé parce que là, évidemment, il allait répondre à un truc comme ça, donc du coup, moi, j'ai vraiment répondre à un truc hyper factuel. Très nul, du coup.
Et alors,
je vais changer
dédicacée.
Mon fusil d'épaule. Une photo dédicacée. Deux places pour l'Olympia. 21-22 septembre. Allez, c'est cadeau. Allez, hop. Non, qu'est-ce que je pourrais laisser? Je pourrais laisser le lien pour aller voir ce que fait VRAC et
absolument.
Pour faire un don pour cette association. Comme ça, demain, quand vous y redescendez, avec vous présentez le lien de la sauce à vos invités de demain.
D'accord, ça marche. Bah, il est sur la page de l'émission.
Merci pour
franceinter.fr. Bien, merci. Merci, Manu Payet. Merci d'être venu nous parler de l'association VRAC. J'en profite pour annoncer que vous serez donc le 21 et le 22 septembre pour les dernières de votre spectacle Emmanuel à l'Olympia. Enfin, c'est ce que vous dites à chaque fois. Merci. Merci aussi Aurélien Barraud. Je rappelle que le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est d'éditer. Oh là, j'ai une patate dans la bouche.
Chez Michel Lafon.
Ouais, chez Michel
Lafon.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana, à la réalisation, à la technique, Gilles Gaillard, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, et Kélian Yousfi, notre stagiaire, demain dans Pop Pop Pop.
Yesterday.
Ah. Eh oui, on va parler de Yesterday avec Richard Curtis, le scénariste de ce très, très joli film qui arrive bientôt. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuf ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos recyclage sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Non, c'est pas terrible celui-là. Alors, et poubelle. Non. Non, la poubelle bleue, j'ai dit bon. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.